Vous écoutez, on lit pour vous.
21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU. La protection de la diversité des expressions culturelles plus importante que jamais. Tous les ans, le 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est organisée par l'UNESCO pour célébrer non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Selon l'UNESCO, 89 % de tous les conflits actuels ont lieu dans des pays où le dialogue interculturel est faible. Pour forger une coopération efficace et maintenir la paix, le renforcement du dialogue interculturel doit être une priorité. Le secteur culturel et créatif constitue l'un des moteurs de développement les plus puissants au monde. Il représente plus de 48 millions d'emplois à l'échelle globale, dont près de la moitié sont occupés par des femmes, soit 6,2 % de tous les emplois existants et 3,1 % du PIB mondial. C'est également le secteur qui emploie et offre des opportunités au plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. Cependant, le secteur culturel et créatif n'a toujours pas la place qu'il mérite dans les politiques publiques et la coopération internationale. Une déclaration historique pour la culture. Plus grande conférence mondiale consacrée à la culture de ces 40 dernières années, Mondiaculte 2022 a réuni pendant 3 jours à Mexico près de 2600 participants. 150 États ont répondu à l'invitation de l'UNESCO et du Mexique en envoyant des délégations. 135 d'entre eux étaient représentés au plus haut niveau par leur ministre de la Culture. Dans cette déclaration, fruit de 10 mois de négociations multilatérales animées par l'UNESCO, les États affirment pour la première fois la culture comme étant un bien public mondial. À ce titre, ils appellent à intégrer la culture en tant qu'objectif spécifique à part entière parmi les prochains objectifs de développement durable des Nations unies. Le texte adopté par les États définit un ensemble de droits culturels qu'il convient de prendre en compte dans les politiques publiques, allant des droits sociaux et économiques des artistes à la liberté artistique, jusqu'aux droits des communautés autochtones à sauvegarder et à transmettre leurs connaissances ancestrales et à la protection et promotion du patrimoine culturel et naturel. Il appelle également à une régulation substantielle du secteur numérique, en particulier des grandes plateformes, au bénéfice de la diversité culturelle en ligne, de la propriété intellectuelle des artistes et d'un accès équitable pour tous au contenu. Culture et développement durable. Avec l'adoption, en septembre 2015, de l'Agenda 2030 Agenda pour le développement durable par les Nations unies et de la résolution sur la culture et le développement durable par l'Assemblée générale en décembre de la même année, le message de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est plus important que jamais. Le meilleur moyen de réaliser les 17 objectifs de développement durable est de s'appuyer sur le potentiel créatif des diverses cultures du monde et d'engager un dialogue permanent afin d'assurer que tous les membres de la société bénéficient du développement durable. Les indicateurs thématiques de l'UNESCO pour la culture dans le programme 2030 forment un cadre d'indicateurs thématiques visant à mesurer et évaluer la contribution de la culture à la réalisation des objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Pourquoi la diversité culturelle est-elle importante? La dimension culturelle est présente dans les 3/4 des grands conflits mondiaux. Combler le fossé entre les cultures est urgent et nécessaire pour la paix, la stabilité et le développement. La diversité culturelle est une force motrice du développement pour la croissance économique et comme moyen de mener une vie intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus satisfaisante. Il existe plusieurs conventions culturelles qui favorisent la promotion de la diversité culturelle en affirmant son atout indispensable pour éliminer la pauvreté et pour réaliser le développement durable. Ces traités internationaux s'efforcent de protéger et de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel mondial, dont les sites archéologiques, le patrimoine subaquatique, les collections des musées, le patrimoine immatériel comme les traditions orales et d'autres formes de patrimoine, tout en soutenant la créativité, l'innovation et l'émergence de secteurs culturels dynamiques. Dans le même temps, l'acceptation et la reconnaissance de la diversité culturelle, notamment par l'utilisation innovante des médias et des technologies de l'information et de la communication, TIC, sont propices au dialogue entre les civilisations et les cultures, au respect et à la compréhension mutuelle. Origines et objectifs de la journée. En 2001, l'UNESCO a adopté la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, et en décembre 2002, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution, a déclaré le 21 mai comme la Journée mondiale pour la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. En 2015, la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution sur la culture et le développement durable, affirmant la contribution de la culture aux trois dimensions du développement durable, reconnaissant davantage la diversité naturelle et culturelle du monde et que les cultures et les civilisations peuvent contribuer au développement durable et en sont des catalyseurs essentiels. La journée donne l'occasion d'approfondir notre compréhension des valeurs de la diversité culturelle et de favoriser la progression des quatre objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005. Soutenir des systèmes durables de gouvernance de la culture, parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et améliorer la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, intégrer la culture dans le développement durable et promouvoir les droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'était 21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU.
L'égalité, vue par Anne Villeneuve, un texte de l'équipe de rédaction paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes. Une société où on valorise l'opinion et la contribution des femmes devient plus forte, plus fonctionnelle et plus progressiste. Anne Villeneuve est autrice et illustratrice depuis plus de 35 ans. Elle a écrit et illustré une cinquantaine d'albums jeunesse. Depuis une dizaine d'années, elle explore aussi le roman graphique pour adultes. En 2023, elle réalise la bande dessinée jeunesse Cap Égalité, en collaboration avec le Conseil du statut de la femme à l'occasion des 50 ans de l'organisme. On peut voir les dessins de l'artiste dans des magazines, des publicités, sur des sites web, des camions de livraison, des emballages et même des rames de métro. Vous croiserez peut-être Anne en voyage, assise sur un bout de trottoir avec son jeu d'aquarelle, en train de croquer un paysage, la vie de gens, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui raconte quelque chose. Ses livres lui ont valu plusieurs honneurs, dont le prix du gouverneur général du Canada, le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, le prix Ruth et Sylvia Schwartz de littérature jeunesse, ou encore le prix Québec-Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse. Anne esquisse aujourd'hui pour nous l'idéal d'une société égalitaire et juste. Tu es l'autrice et l'illustratrice de la bande dessinée jeunesse Cap Égalité, produite en collaboration avec Le Conseil. C'est important pour toi, comme artiste, de t'investir dans un tel projet? Pour son 50e anniversaire, Le Conseil a eu cette formidable idée de s'adresser à nos jeunes pour leur parler des enjeux féministes actuels, des luttes toujours à mener, de l'égalité des chances et d'inclusion. J'ai spontanément dit oui à ce projet. En fait, c'est ma petite fille intérieure qui a dit oui. Ce qui m'a toujours plu dans mon métier d'autrice et illustratrice, c'est de raconter, grâce aux formidables outils de création que j'ai sous la main, la plume et le pinceau. Et ça tombe bien, puisque les enfants réclament des histoires, ils veulent savoir, tout savoir, pas seulement des contes de fées, ils veulent aussi du concret, apprendre la vie. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de sujet tabou, que tout était dans la manière et les mots pour le dire. Les enfants sont un public exigeant et ils ne sont pas dupes. Ils s'attendent à de l'honnêteté et de la franchise. J'aurais aimé, petite, qu'on m'explique ce genre de choses. Ça m'a donc semblé tout naturel d'embarquer à pieds joints dans ce projet et de tricoter une histoire afin d'éveiller chez eux une conscience et une réflexion sur ces sujets. Et ça a été un beau défi à relever. Les femmes occupent depuis plusieurs années une place importante dans le monde de la littérature jeunesse au Québec. C'est plus récent dans le milieu de la bande dessinée grand public. Qu'est-ce qui explique ce constat? Depuis une cinquantaine d'années, la littérature jeunesse québécoise foisonne d'œuvres d'excellentes autrices. Elles y ont effectivement une place pertinente et bien méritée. En bande dessinée, la progression a été plus lente. D'abord, l'abondance BDesque a mis plus de temps à venir au Québec, tous sexes confondus. Puis, pendant plusieurs décennies, les hommes étaient beaucoup plus présents dans ce milieu que les femmes. C'était, il me semble, une sorte de fief masculin. Mais je crois que c'était le cas partout ailleurs aussi. Dans les années 80, 90 et 2000, il n'y avait que quelques femmes qui exerçaient ce métier dans le monde. Comment expliquer cela? Est-ce que ça leur a pris plus de temps pour se faire confiance et mettre de l'avant leur talent? Est-ce que leur création était prise autant au sérieux que celle de leurs collègues masculins? Difficile à dire. Il y a quelques années, les critiques littéraires de bande dessinée accordaient plus de place aux livres d'auteurs qu'à ceux d'autrices. Mais je crois que cela a aussi changé. Mon idée là-dessus est bien modeste, mais je pense que la BD abordait auparavant des sujets plus légers, comiques ou fantastiques. Avec l'apparition plus récente des romans graphiques, qui sont des bandes dessinées souvent plus poétiques ou ancrées dans certaines préoccupations humaines, les femmes s'y sont peut-être davantage retrouvées. Ça a été mon cas. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais je n'osais pas me lancer car je ne me reconnaissais pas tout à fait dans ce style littéraire à l'époque. Le fait d'avoir découvert des histoires plus intimes en BD aura été mon tremplin. Aujourd'hui, je suis fière de voir le travail de femmes bédéistes qui ont du bagou, du courage et des choses à dire. Pensons à Alison Bechdel, Pénélope Bagieux et, plus près de nous, Julie Delporte et Catherine Oslo. Et il y en a tant d'autrices à découvrir. Je suis féministe parce que parce qu'il m'est tout naturel de l'être. Être féministe, c'est prendre soin de nous, les femmes, mais c'est aussi prendre soin de toute la société, une société qui devient alors plus juste, plus respectueuse, plus empathique et plus inclusive. Toutes les valeurs chéries et protégées par les femmes au fil du temps et des civilisations. Une société où on valorise l'opinion et la contribution des femmes devient plus forte, plus fonctionnelle et plus progressiste. Parce que c'est ce que j'ai appris sur les bancs d'école. Je viens d'une famille plutôt traditionnelle des années 70, où les talents des filles n'étaient pas nécessairement mis autant en valeur que ceux des garçons. On attendait encore d'elles qu'elles soient mères au foyer et qu'elles mettent en veilleuse leurs aspirations. Heureusement, j'ai eu la chance d'aller dans une école de filles. J'y ai pris beaucoup confiance en moi, en mes possibilités, grâce à des profs qui avaient réellement à cœur de mettre nos forces de l'avant et de nous encourager à nous forger un esprit critique et un sens citoyen. Le discours prévalent de cette école à l'époque était de ne pas attendre après un homme pour nous protéger et nous prendre en main. Nous devions être libres de faire ce qui comptait réellement pour nous, être fiers de nos accomplissements et ne pas hésiter à foncer. Nous n'appelions pas ça féminisme, mais c'en était, et du très concret. Parce que c'est ce en quoi je crois depuis toujours, et que j'essaie, à ma façon, de le transmettre à mes petits-fils et aussi par mes images et mes mots. Parce que je dois continuer à me mettre ce mot en bouche pour qu'il soit dit et répété par moi et d'autres, femmes et hommes, tant et aussi longtemps que les droits des femmes seront encore une préoccupation sociale. Il y a toujours du travail à faire pour l'égalité et surtout, nous devons sans cesse veiller au grain afin de ne pas perdre nos acquis. Qu'est-ce qui progresse nettement dans le combat des filles et des femmes pour l'égalité? De tous les temps, les filles et les femmes ont été coincées dans un carcan sociétal avec des idées bien précises sur leur apparence, ce qu'on attend d'elles, ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Je crois qu'au fil des années et des générations, avec les diverses façons que nous avons eues d'exprimer nos points de vue, la société change, s'ouvre, les champs des possibles féminins s'étendent, et c'est fort encourageant. S'il y a un aspect qui me réjouit plus particulièrement, c'est l'acceptation des diversités des corps féminins et l'atténuation progressive des dictats de la beauté féminine. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes afficher leurs différences corporelles et véhiculer le message selon lequel il faut se préoccuper davantage de ce qu'elles peuvent et veulent offrir à la société plutôt que de ce qu'elles projettent physiquement. C'est un discours très rafraîchissant qui m'allume beaucoup. Malgré tout, il y a un courant inverse, largement véhiculé par les réseaux sociaux, où l'on voit de jeunes femmes encore aux prises avec ces dictats de beauté, ce qui peut mettre beaucoup de pression sur nos filles à devenir et rester minces, à être parfaites et performantes en tout. Mais le vent change, et j'ose espérer. Nomme une valeur égalitaire qu'il faut absolument transmettre aux générations futures. Le respect. Je crois qu'être féministe est d'abord et avant tout une question de respect au sens large. De respect de toute chose, de tout être vivant. Il est primordial que les parents soient conscients du rôle premier qu'ils ont à jouer dans l'apprentissage, car cette valeur doit être enseignée dès la petite enfance. L'enfant apprend le respect de soi, d'elle ou de lui, puis le respect de la fratrie, des voisins, de la société et de notre environnement. si on apprend à un petit être le respect des limites, des opinions, des désirs et des besoins des autres, alors le respect pour la cause et les droits des femmes viendra tout naturellement. Cet adage selon lequel il faut tout un village pour élever un enfant est toujours aussi vibrant de vérité. Nous devons préserver notre cohésion en tant que village, pays, société, afin de pouvoir enseigner et faire valoir le respect auprès des générations émergentes. C'était « L'égalité vue par Anne Villeneuve », un texte de l'équipe de rédaction paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
Dans le trafic en ambulance. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 5 mai 2025 dans La Presse. Difficile de circuler à Montréal? Parlez-en aux ambulanciers. La multiplication des chantiers rend leur travail plus hasardeux que jamais. Si on ajoute à ces entraves le manque de civisme des automobilistes qui ignorent sirènes et gyrophares, le désastre les guette à chaque intervention. Notre chroniqueur a accompagné un superviseur sur le terrain. L'appel entre à 9h41. Une décharge accidentelle d'armes à feu dans le vieux port de Montréal. Au moins un blessé. J'accompagne ce matin-là Jean-Marie Dufresne, superviseur d'urgence santé, dans son véhicule de patrouille. Un gros Ford Explorer, rempli de tous les équipements médicaux imaginables. L'idée de départ, me permettre d'observer pendant quelques heures les difficultés qu'ont les premiers répondants à circuler dans les rues de la métropole. Ce que je constate en prime, un manque de civisme effarant de bien des automobilistes. Ça fait peur, je vous avertis. Coup de feu au Vieux-Port, donc. Nous sommes sur Pineuf, près de Notre-Dame-Est, lorsque Jean-Marie reçoit l'info, en plein cœur d'une zone de chantier. Il y a des cônes oranges d'un côté, des clôtures de l'autre, et devant nous, une file de voitures à l'arrêt. Une seule voie pour circuler. Le superviseur active la sirène et les gyrophares, klaxonne de façon tonitruante. Rien ne bouge d'un pouce. Trois bonnes minutes passent avant qu'un chemin s'ouvre enfin de peine et de misère. Une éternité en situation d'urgence. Le superviseur pour urgence santé, Jean-Marie Dufresne, explique « Ça a toujours été un peu problématique, mais depuis 5 ans, il y a une augmentation des travaux, ce qui engendre beaucoup plus de détours. Ça augmente les temps de réponse. » Nous parvenons enfin jusqu'à Notre-Dame, devant l'usine de sucre Lantique. Virage vers l'ouest à toute allure, et presque aussitôt, bang! Un autre bouchon. Les véhicules sont bien cordés sur 2 voies de large. « On va faire Moïse et la séparation des eaux », lance Jean-Marie, un as du volant. Une ouverture se dessine enfin. Notre Ford Explorer s'y glisse. Mais ça coince de nouveau quelques centaines de mètres plus loin. Jean-Marie bifurque vers les 2 voies en direction opposée. Il fonce à une vitesse d'enfer en sens inverse. Sourire crispé de votre chroniqueur. Nouvel embouteillage au niveau du pont Jacques-Cartier. Le conducteur traverse le terre-plein dans un fracas métallique. Le trajet se poursuit à tombeau ouvert dans le tunnel Ville-Marie, sur Bonaventure, jusqu'à notre destination en bordure du fleuve. La personne blessée est déjà prise en charge par des ambulanciers et son état est sous contrôle. Un premier appel de fait. C'est grâce à un lecteur de La Presse, ambulancier depuis 23 ans, que je me retrouve dans cette aventure. L'homme m'a écrit pour dénoncer les travaux omniprésents, la multiplication des sens uniques, les nids de poules géants, bref, la complexité et la décrépitude des rues montréalaises qui contribuent fortement au délai d'intervention de vos services d'urgence. Ceci entraînant cela, je me suis retrouvé à passer un avant-midi avec Jean-Marie Dufresne. Il est ambulancier depuis 1995 et superviseur depuis 5 ans. Le meilleur job au monde, selon lui. Dans son rôle, il a une vue d'ensemble des urgences en temps réel. Le nombre d'appels qui entrent, les cas prioritaires, le nombre d'ambulanciers disponibles. La priorité va de 0 à 8, 0 étant le plus grave, m'explique-t-il. En ce moment, on a 53 appels urgents actifs, 206 appels en cours, 76 ambulances et 13 appels en attente d'affectation. Urgence santé couvre tout le territoire de Montréal et de Laval. C'est énorme. 744 kilomètres carrés, l'équivalent de 13 fois l'île de Manhattan. Notre matinée est somme toute assez calme, mais la situation peut devenir serrée. Ça devient critique quand on dépasse 70 appels à l'heure. L'entreprise ambulancière est en train de revoir tout son système de navigation qui commence à dater. Jean-Marie Dufresne me fait la démonstration sur son gros écran. Les trajets les plus rapides pour se rendre sur le lieu d'une urgence sont marqués d'une ligne rose. Mais voilà, il y a tellement de chantiers partout que plus rien n'est à jour. Les paramédicaux doivent aussi se fier à l'application de navigation Waze, réputée très précise, et à leur propre connaissance du terrain. Les délais s'allongent dans tous les cas. Cela ne transparaît pas dans les statistiques officielles d'urgence santé, qui incluent aussi les données des autres premiers répondants, policiers, pompiers, mais tous les ambulanciers à qui j'ai parlé me le confirment. Et dans les cas les plus critiques, l'allongement du temps de réponse peut faire la différence entre la vie ou la mort d'un patient. Dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, dit M. Dufresne, pour chaque minute où il n'y a pas de manœuvre de RCR, les chances de survie baissent de 10 % au bout de 10 minutes. T'es pas mal dead. Parmi les secteurs les plus compliqués, il me nomme le plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges ou encore Saint-Léonard, et sans surprise, le centre-ville. La situation est désastreuse autour du CHUM, qui reçoit des dizaines d'ambulances chaque jour. Il y a en ce moment des travaux tout autour pour construire une piste cyclable qui irrite l'établissement. Lors de notre passage à côté du méga-hôpital rue Saint-Denis, notre véhicule reste coincé dans un bouchon pendant 3 ou 4 minutes. Urgence santé a dû revoir ses façons de faire pour contourner le problème. Ce qu'on a donné comme directive à nos troupes, c'est de ne pas arriver du nord, explique Jean-Marie. On leur dit d'arriver de l'est ou du sud, parce qu'on sait qu'il va y avoir des délais. Et malgré tous les travaux, l'état des rues ne s'améliore pas. Bien au contraire. Le niveau de dégradation des chaussées, rempli de bosses, de crevasses et de trous, représente un réel danger pour les ambulanciers et surtout leurs patients. Ça couine et ça brase dans les véhicules, c'est acquis. Il existe des coquilles de protection pour les blessés, mais elles ne sont pas magiques. Il y a des cas où ça va aggraver des blessures, dans des cas de traumatisme, par exemple, souligne l'ambulancier. Il y a aussi un danger d'extubation. Des travaux partout à Montréal et des rues en mauvais état. Rien de trop neuf sous le soleil. Ce qui m'a le plus marqué de cette courte expérience et franchement choqué est le manque de courtoisie absolue de nombreux automobilistes et camionneurs. À plusieurs reprises, malgré sa sirène et ses gyrophares, Jean-Marie a dû trouver le moyen de les contourner en franchissant un terre-plein ou en empruntant une voie opposée. La raison est simple. Les conducteurs ne cèdent pas le passage. Il y a une diminution du civisme, se désole Jean-Marie Dufresne, absolument, et une augmentation de l'ignorance. Les gens ne connaissent pas leur code de la sécurité routière. Ils ne portent pas attention à ce qui se passe autour d'eux, avec tous les stimuli, leur téléphone, leur GPS. Un autre ambulancier m'a raconté les menaces fréquentes qu'il subit lors de ses interventions. Comme cet automobiliste coincé derrière son véhicule, dans une rue du plateau, alors qu'il tentait de réanimer un patient en arrêt respiratoire. Il a menacé de le faire décollisser. Il y a aussi tous ces messages d'insultes laissés sur son pare-brise. Car que vaut une vie humaine en comparaison de quelques minutes d'attente, assis confortablement dans son char? C'est un reflet de notre société, j'en ai bien peur. Celui d'un individualisme crasse. En chiffres. 363 868. Nombre d'appels d'urgence médicale reçus par Urgence Santé pendant l'année financière 2023-2024 à Montréal et Laval. 284 465. Nombre d'interventions médicales effectuées cette même année par les ambulanciers. 744 km², territoire desservi, l'équivalent de 13 fois Manhattan. 777. Nombre moyen d'interventions des paramédicaux chaque jour à Montréal et Laval. 999. Nombre de paramédicaux pour le territoire de Montréal et Laval. C'est une baisse de 24 effectifs par rapport à l'année précédente. 6 minutes 42 secondes. Temps de réponse pour les appels de priorité zéro, les plus urgents, ce qui représente la moyenne du délai entre la réponse à l'appel et l'arrivée sur les lieux de la première ressource préhospitalière, paramédicaux ou premiers répondants. C'était, dans le trafic en ambulance, un texte de Maxime Bergeron, paru le 5 mai 2025 dans La Presse.
Des fidèles en deuil. Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025. Un texte de Mathieu Perrault, Judith Lachapelle et Éric Martel, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Un message d'espoir. Les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre dimanche était enchanté par l'apparition du pape François parmi eux pour célébrer Pâques. Il ne savait pas que ce serait sa dernière. Le souverain pontife s'est éteint lundi matin, le 21 avril 2025, au Vatican, à l'âge de 88 ans, un peu plus de 2 mois après avoir été hospitalisé pour une sévère pneumonie. Ce matin, à 7h35, 1h35, heure de l'Est, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église, a annoncé le cardinal Kamerlingue Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican. Son certificat de décès publié par le Vatican indique qu'il a succombé à un accident vasculaire cérébral AVC, qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. François a insisté dimanche, le 20 avril 2025, pour assister aux cérémonies de Pâques sur la place Saint-Pierre, malgré les recommandations de ses médecins, qu'il s'impose 2 mois de convalescence. Des fidèles ont témoigné aux médias de la souffrance évidente du pape. Mais Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui a dirigé les communications du diocèse de Québec de 2009 à 2019 et qui a travaillé sur la visite du pape au Canada en 2022, estime que ce dernier tour de piste a voulu donner espoir. Quand François a rendu son dernier souffle, c'était encore Pâques dans plusieurs pays du monde, dit M. Lemieux-Lefebvre. On célébrait la résurrection du Christ. C'est un message d'espoir. La mort de François s'inscrit dans un message d'espérance. D'ailleurs, cette année, c'est le jubilé de l'espérance. Et son autobiographie, en janvier 2025, s'appelait « Espère ». Le message de Pâques a aussi joué dans le dernier acte politique de François. Je trouve très important que François ait choisi la journée de Pâques, alors qu'il était fatigué, pour rencontrer J.D. Vance, dit M. Jasmin Lefebvre. On a face à face des interprétations du message du Christ, notamment face aux migrants. François a choisi de tendre une perche à J.D. Vance, à l'administration Trump. J'espère que ce qu'ils se sont dit va être rendu public, que ça va avoir un impact sur les États-Unis, sur le monde entier. Son message « Urbi et Orbi » de Pâques pouvait d'ailleurs être lu comme un commentaire sur certaines politiques américaines, selon Gilles Routier, théologien à l'Université Laval. Il a parlé de liberté de pensée et d'expression, comme pour prendre à contre-pied le discours de J.D. Vance, dit M. Routier, faisant référence à une accusation du vice-président américain à l'effet que la liberté d'expression est menacée par les restrictions européennes envers l'extrême droite. Engagement écologique. Monsieur Lemieux Lefebvre relève que les messes qui vont commémorer la mort de François partout dans le monde vont avoir lieu mardi, le jour de la Terre. Sauver la planète était une cause qui lui tenait particulièrement à cœur, dit-il. Ici, à Québec, il va y avoir une messe du cardinal Lacroix et aussi des chrétiens qui vont aller manifester pour le climat devant l'Assemblée nationale. De nombreux groupes chrétiens de Québec ont d'ailleurs partagé leur intention d'aller à la manifestation pour le climat devant l'Assemblée nationale, selon Myriam Bourget de Manres, un centre de spiritualité jésuite de la capitale. Premier pape non-européen depuis près de 1300 ans, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio a réussi à éloigner l'Église des affaires de mœurs tout en s'illustrant par son humilité et son engagement écologique. Né dans une famille d'origine italienne, en Argentine, en 1936, le pape François a passé sa carrière pré-papale à Buenos Aires, la capitale. Il est devenu provincial des jésuites du pays durant la dictature militaire. Cette période difficile a ralenti sa progression dans la hiérarchie catholique. Malgré tout, Jorge Mario Bergoglio a été fait archevêque de Buenos Aires en 1998. Après le décès de Jean-Paul II, en 2005, il avait été pressenti pour devenir pape. Jorge Mario Bergoglio sera nommé souverain pontife en 2013 après la démission extraordinaire de Benoît XVI. Les dernières années de vie de François ont été marquées par plusieurs hospitalisations, notamment pour des problèmes pulmonaires remontant à une ablation partielle d'un poumon en raison d'une pleurésie à l'âge de 21 ans. Discernement jésuite. François a fait beaucoup d'efforts pour repenser la gouvernance de l'Église, observe le théologien Gilles Routier de l'Université Laval. Il a réformé, dit-il, la curie romaine, la haute administration vaticane, et a modifié les règles des synodes qui font évoluer les discussions dans l'Église, pour favoriser la participation des laïcs, hommes et femmes. Le pape François a également réussi à éloigner, un peu, les controverses sur les mœurs du trône de Saint-Pierre, selon M. Routier. L'une de ses citations frappantes est « Qui suis-je pour juger ?» prononcée peu après son élection, en 2013, lorsqu'ont émergé des allégations d'homosexualité visant le président de l'Institut pour les œuvres de religion, décrite comme la Banque du Vatican. Devant la diversité des situations mondiales et leur complexité, il a affirmé qu'on ne pouvait attendre du pape qu'il dise si une pratique ou une situation est bonne ou mauvaise, indique M. Routier, qui cite l'exemple de la communion des divorcés remariés. Le pape François a indiqué qu'elle devait être acceptée avec discernement, selon le contexte. Le discernement, c'est très jésuite, selon Gilles Routier. C'est un renversement de situation. Le pape ne nous dit pas « je vais vous enseigner ». Il nous demande de faire preuve de discernement pour chaque situation. Pour le Canada, le point marquant du pontificat de François s'est avéré, selon M. Routier, sa visite au pays en 2022 pour présenter ses excuses aux Autochtones. Il n'a pas fait ça dans beaucoup de pays, note le théologien. Pour les autres dossiers ayant marqué son pontificat, mentionnons la protection de l'environnement ou encore la critique du capitalisme et des inégalités. Il révèle sa formation intellectuelle, estime Massimo Fagioli, théologien de l'Université Villanova en Pennsylvanie et auteur d'un livre sur l'impact de François sur l'Église, paru en 2020. Il fait une critique de la modernité directement liée à la pensée catholique des années 1930 et 1940. C'est une critique conservatrice du capitalisme, plutôt qu'une critique radicale ou socialiste, comme celle de certains penseurs catholiques des années 1970, explique-t-il. M. Fagioli estime que François était plus proche de la doctrine sociale de l'Église d'il y a 100 ans. Mais au lieu de s'en tenir à défendre la classe ouvrière à partir du début du XXe siècle, ou les pays pauvres du Sud à partir des années 1960, la doctrine sociale de l'Église sous François s'est distinguée en adoptant l'idée de défendre les droits des générations futures, notamment en lien avec l'environnement, relève le dominicain français Thomas Michelet, qui enseigne à l'Université pontificale Saint Thomas d'Aquin, Angelicum, à Rome. Humilité. François s'est aussi démarqué par une humilité quasi ostentatoire. Ses appels impromptus à des fidèles ordinaires qui lui avaient écrit ou ses baisers résolus aux pieds des plus mal pris, dont un fidèle atteint d'une déformation impressionnante, le Jeudi Saint, ont frappé l'imaginaire. Quand il était archevêque de Buenos Aires, puis cardinal, il insistait pour qu'on l'appelle « Père » plutôt que « Monseigneur ». Il avait même renoncé à son appartement de fonction. Après son élection au conclave, en 2013, François est allé chercher lui-même ses valises à l'hôtel, en plus de payer la note, et a décidé de rester à la résidence Sainte-Marthe, dans la cité du Vatican, plutôt que dans les appartements pontificaux. Cette austérité remonte à son enfance, avance sa biographe Francesca Ambroghetti, journaliste de l'agence de presse italienne ANSA à Buenos Aires. Il avait les habitudes des familles laborieuses du nord de l'Italie, d'où ils ont immigré en 1929. Il ne fallait pas gaspiller. D'ailleurs, quand Bergoglio a annoncé à sa mère qu'il allait devenir prêtre, elle lui a dit qu'il allait sûrement changer d'idée. Pour elle, il était impensable qu'il ne poursuive pas sa carrière de chimiste. Avant d'entrer au séminaire, à 21 ans, ce qui était considéré comme tardif à l'époque, François a demandé une femme en mariage. Le sacerdoce n'a pas immédiatement chambardé sa vie. Il a commencé à enseigner la psychologie et la littérature argentine dans l'un des plus prestigieux collèges catholiques du pays. C'est à cette époque qu'il s'est lié d'amitié avec l'écrivain Jorge Luis Borges. Vous écoutez « Des fidèles en deuil » Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025. Un texte de Mathieu Perrault, Judith Lachapelle et Éric Martel, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. La dictature et François. La dictature militaire argentine a forcé le pape François à se salir les mains. Il était alors provincial, patron, des jésuites argentins. Deux jeunes membres de l'ordre religieux catholique qui travaillaient dans des quartiers pauvres, Orlando Iorio et Francisco Halic, l'ont alors accusé de ne pas s'être opposé à leur emprisonnement. François a aussi été cité dans un cas d'enlèvement d'enfants né dans les geôles du régime dictatorial et dont les jésuites avaient facilité l'adoption, selon les victimes. Plusieurs livres ont été écrits sur ces liens possibles avec la dictature militaire en Argentine. Après l'élection de François, en 2013, le père Jalic, le père Iorio, était mort en 2000, a nié que Bergoglio ait été en partie responsable de son emprisonnement. Jorge Mario Bergoglio a connu des années de purgatoire après la chute de la dictature. Durant cette période, il a fait son doctorat en Allemagne sur un théologien italo-allemand, spécialiste de la liturgie, Romano Guardini, pour ensuite effectuer un retour dans des paroisses argentines. En 1992, il a été fait évêque auxiliaire de Buenos Aires. Comme pour rectifier les faits sur sa collaboration avec la dictature argentine, François a facilité, en 2015, la béatification de l'archevêque Oscar Romero de San Salvador, assassiné en 1980, en pleine messe, par des membres de l'extrême droite. Aux yeux de plusieurs, l'absence de Mgr Romero au Panthéon des Saints prouvait que le Vatican fermait les yeux sur les crimes commis par la droite. Des liens avec Ouellette et la Croix. La route de François a croisé celle du cardinal québécois Marc Ouellette. Au conclave de 2005, qui a mené à l'élection de l'Allemand Joseph Ratzinger, le cardinal Bergoglio avait terminé deuxième, d'après le vaticaniste italien Andrea Tornielli. Son élection a néanmoins surpris au conclave de 2013. Le cardinal Ouellette, qui faisait partie, en 2013, des papabili, personnes jugées susceptibles d'être élu pape, était fortement associé à Benoît XVI. Ouellette et Ratzinger adhéraient tous deux à la pensée conservatrice du théologien suisse-allemand Urs von Balthasar, 1905-1988. Et pourtant, Mgr Ouellette a conservé son poste de préfet de la Congrégation pour les évêques avec François jusqu'en 2023. Ouellette avait beaucoup d'appui lors du conclave de 2013, observe le théologien Massimo Fagioli. Et il a pris bien soin de ne pas s'opposer aux décisions et à la vision de François. Je pense qu'il était un lien avec certains cardinaux plus conservateurs. Dans son livre « The Election of Pope Francis », le vaticaniste de l'hebdomadaire jésuite « America » Gerald O'Connell affirme que Mgr Ouellet était troisième au début du conclave de 2013, puis deuxième, avant de finalement appeler ses partisans à voter pour Mgr Bergoglio. Cette proximité avec Mgr Ouellet s'est transmise à son successeur comme archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, qui a fait partie d'un groupe de 9 proches conseillers du pape à compter de 2023. François, les fidèles et Saint-Joseph. Le pape François avait une dévotion particulière pour Saint-Joseph, à qui il avait consacré une année spéciale de célébration en 2021. À l'oratoire montréalais, consacré au Père du Christ, lundi matin, les fidèles ont fait part de leurs pensées à l'annonce de sa mort. Pluie d'hommages. Les réactions ont fusé à l'international à la suite de la mort de Jorge Mario Bergoglio, tant dans les sphères politiques, artistiques que sportives. Tour d'horizon. Foi et humanité. Le président argentin Javier Milei décrétera 7 jours de deuil international en réaction à la mort de Jorge Mario Bergoglio. Il a exprimé sa profonde douleur à l'annonce de la mort du pape argentin, saluant sa bonté et sa sagesse, malgré des différences mineures avec lui. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le pape François était un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité. Il laisse derrière lui un héritage de foi, de service et de compassion pour tous, spécialement ceux qui sont à la marge ou piégés dans les horreurs de la guerre, a-t-il estimé dans un communiqué. L'Europe secouée. Le pape François a inspiré des millions de personnes, bien au-delà de l'Église catholique, par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis, affirme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La mort du pape François nous afflige profondément parce qu'un grand homme nous quitte, a réagi lundi la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Le président français, Emmanuel Macron, a rendu hommage à celui qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles, adressant ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier. Le premier ministre britannique, Keir Starmer, a pour sa part salué les efforts inlassables du pape pour un monde plus juste. Le roi Charles III s'est dit profondément attristé par la mort du pape François, qui a servi le monde avec dévotion toute sa vie. Présence américaine. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est rendu aux obsèques du pape. « J'irai avec Melania aux obsèques du pape François à Rome. Nous sommes impatients d'y être », a-t-il publié sur son réseau Truth Social. « Que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé », avait-il indiqué plus tôt en journée. L'ancien président américain Joe Biden a pour sa part salué le combat contre la pauvreté du pape François. On se souviendra du pape François comme l'un des dirigeants les plus importants de notre époque, a-t-il souligné. Hollywood en deuil. Le vedettariat n'a pas tardé à réagir massivement à la mort du pape François sur les réseaux sociaux. Il a été celui qui a semblé être le plus près, depuis très longtemps, de se souvenir que l'amour du Christ enveloppe les croyants et les non-croyants », a écrit l'actrice Whoopi Goldberg à son sujet. Il était un être humain remarquable. Il reconnaissait ses propres faiblesses. Il rayonnait de sagesse. Il rayonnait de bonté. Il avait un engagement inébranlable envers le bien, a pour sa part commenté le réalisateur Martin Scorsese. Merci d'avoir été un allié pour tant d'entre nous et d'avoir pris la parole en faveur des personnes marginalisées. Votre compassion, votre bonté et votre humilité resteront à jamais gravées dans nos mémoires, a souligné l'actrice Eva Longoria. L'interprète de Rocky Balboa, Sylvester Stallone, a qualifié Jorge Mario Bergoglio d'homme vraiment merveilleux, tandis qu'Antonio Banderas, l'acteur derrière Zorro au cinéma, a vanté sa miséricorde envers les plus démunis. Sportif attristé. Le joueur de soccer le plus populaire de la planète, Lionel Messi, a fait l'éloge du pape François, argentin comme lui. Un pape différent, proche, argentin. Repose en paix, pape François. Merci d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer, a-t-il publié sur Instagram. Rafael Nadal, joueur de tennis aux 22 titres du Grand Chelem, a qualifié cette journée de triste. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à l'occasion du décès du pape François. Qu'il repose en paix, a-t-il réagi. Le président sortant du Comité international olympique, CIO, Thomas Bach, a regretté la perte d'un grand ami et soutien au mouvement olympique. Son soutien à la mission de paix et de solidarité des Jeux olympiques et aux nombreuses initiatives du CIO en faveur des réfugiés a été indéfectible. Reposez en paix, a-t-il réagi. C'était Des fidèles en deuil, Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025. Un texte de Mathieu Perrault, Judith Lachapelle et Éric Martel, paru le 22 avril 2025 dans La Presse.